RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage nous conduit aujourd'hui en Belgique où 8 hommes et 4 femmes ont été désignés lundi pour juger le djihadiste français Mehdi Nemmouche, accusé de 4 assassinats commis en 2014 au musée juif de Bruxelles. Un accusé impatient assure sa défense de dire sa vérité. L'audience au fond s'ouvre ce jeudi. Le procès devrait durer jusqu'à fin février. Le djihadiste encourt une peine de réclusion à perpétuité. Mehdi Nemmouche et le musée juif de Bruxelles, c'est un grand reportage de Franck Alexandre et Pierre Chaffanjon.
Soudain, il apparaît. Sur les caméras de vidéosurveillance, on le voit surgir, tout de noir vêtu, casquette, vissée sur la tête, arme à l'épaule. Ce samedi 24 mai 2014, pendant 3 minutes, il fait feu. Shuna Lumpunda, la porte-parole du musée juif de Belgique, n'a rien oublié de ces secondes infernales.
Myriam et Emmanuel Riva, qui étaient des touristes israéliens, ne sont même pas rentrés, je dirais, complètement dans le musée, vu qu'ils ont été frappés dans le hall. Alexandre Strenz devait être probablement à son poste parce qu'il était mi-temps préposé à l'accueil et l'autre mi-temps mon assistant. Et ce jour-là, donc, il était à l'accueil. Il a dû, essayer de sortir probablement et voir ce qui se passe. Et c'est là qu'ils ont été frappés par l'arme de Mehdi Nemmouche, ainsi que Dominique Sabrier, qui se trouvait à l'accueil. Il y avait des impacts de balles dans le hall.
21 rue des Minimes, quartier du Sablon, au cœur de Bruxelles. Une simple plaque de cuivre vissée sur une porte cochère indique le musée juif. Et pour y pénétrer, il faut passer un premier filtre, celui de l'interphone. Bonjour, oui. Franck Alexandre de RFI. Vous avez rendez-vous ce matin?
Oui.
Avec le directeur du musée?
Oui. Ok.
À l'accueil, derrière la lourde porte, Claude Humflat, l'homme à tout faire du musée juif. Il y travaille depuis plus de 20 ans. Jusqu'à l'attentat, il avait toujours connu ce musée ouvert aux quatre vents. Le hall d'entrée a désormais bien changé.
Ça n'existait pas encore.
Maintenant, pour entrer dans le musée, on passe par un sas complètement étanche.
Oui, c'est bien ça. Il n'y a pas mieux, quoi. Oui, parce qu'avant, on ne s'imaginait pas qu'il pourrait arriver quelque chose, donc... Le musée, il était ouvert sans trop de surveillance. On jugeait que on n'était pas une cible potentielle comme une école ou une synagogue. Donc le musée, il y a d'autres musées dans le monde où il n'y a pas beaucoup de surveillance et il se passe rien. Et ben, il a suffi d'une fois et voilà.
Donc nous voici dans la cour du musée après avoir passé ce sas de sécurité digne d'une banque. Hein.
Digne d'une banque, en tout cas digne de la sécurité de nos visiteurs avec la tragédie qui s'est produite ici le 24 mai 2014.
Nous retrouvons Shuna Lumpunda, la très énergique responsable des relations publiques.
C'est vrai qu'avant on pouvait rentrer dans ce musée, je dirais librement, parce qu'un lieu de culture n'a pas vocation à ressembler à un Fort Knox. Mais suite... à l'horrible tragédie où quand même péri 4 personnes, Alexandre Strenz, Dominique Sabrier, Myriam et Emmanuel Riva. Il a vraiment fallu revoir le dispositif de sécurité pour assurer non seulement la sécurité du personnel, mais de tous nos visiteurs.
Alors, je vous montre une photo qui est intéressante.
Tête blanche, regard perçant et costume élégant, nous parcourons les galeries du musée en compagnie de son président Philippe Blondin, marqué au fer rouge par ce 24 mai.
J'ai été avisé de ce qui se passait alors que j'étais en voiture pour arriver au musée. Donc je suis arrivé quelques minutes après cet attentat. Les chemins étaient déjà bloqués. Donc je me suis retrouvé au Sablon, dans la musique. C'était la fête ce jour-là. Il y avait une... activité de jazz. Et j'ai demandé à toute mon équipe de se réunir. Ils sont tous arrivés. On a fait le point de ce qui s'était passé, des informations que j'avais pu recevoir par les officiers de police qui bloquaient l'accès de la rue des Minimes. Au travers les informations qu'ils me donnaient, je répercutais bien sûr à toute notre équipe qui se trouvait autour de moi.
Le musée juif de Belgique a depuis fait sa mue, tout a changé dans son organisation et sa philosophie sous l'impulsion de sa directrice Pascal Fallet-Caladef.
Après 2014, on a mis en place des mesures de sécurité supplémentaires en coordination et en étant à l'écoute des conseils donnés par la police et par les autorités. Et ensuite, on a aussi une équipe qui essaye de mettre en place toute une série d'activités pour attirer un public d'autant plus nombreux. Il est d'autant plus important, après ce qui s'est passé, d'accueillir plus de jeunes, plus de scolaires, plus d'enfants qui viennent et qui apprennent, qui essaient de comprendre, qui ont une vision plus nuancée de ce que peut être une identité juive, plurielle, complexe, aujourd'hui. L'exposition de photographie qu'on a aujourd'hui, par exemple, de l'artiste Leonard Fried, un photographe américain, montre son combat en tant que juif pour la lutte contre les discriminations raciales. Ce sont des combats engagés que nous essayons de mettre en avant.
Shuna Lumpunda, porte-parole du musée juif.
Je pense que chacun d'entre nous, à sa manière, a été marqué par cette onde de choc qui est tombée sur nous le 24 mai. Maintenant, nous avons décidé également, en mémoire des victimes, d'avancer, d'aller de l'avant en poursuivant notre mission, de faire connaître cette culture parce qu'on ne combat pas ce que l'on connaît. Donc de permettre aux visiteurs de s'approcher de cette culture pour moins s'en méfier et pour avoir un dialogue.
Et pour avancer, Philippe Blondin, le président du musée juif, a une idée fixe, martelé qu'il n'a pas été visé parce que juif.
Ce qui s'est passé ici à Malbec, c'est pas antisémite. Ce qui s'est passé à Zaventem, c'est pas antisémite. Donc on est tous dans le même bain. Il faut pas limiter les choses à une vision qui réduit et qui dit « Oh, mais c'est un acte antisémite ». Non, c'est pas suffisant. Je m'insurge contre cette vision. Elle est limitative et elle est fausse.
Nous quittons le musée juif, quelques pas seulement, pour arriver rue de la Régence, siège du consistoire israélite de Belgique et de la Grande Synagogue.
Allô ?
Oui, bonjour, c'est Franck Alexandre de Radio France Internationale.
Oui.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec monsieur Philippe Markiewicz.
Je vous laisse rentrer.
Merci.
C'est un bâtiment qui date de 1878 et nous avons fait une célébration le 26 novembre dernier en présence de Sa Majesté le Roi pour célébrer les 210 ans du Consistoire central israélite de Belgique qui a été créé par Napoléon et également les 140 ans de la construction de ce bâtiment aussi qui abrite la Grande Synagogue de Bruxelles qui a été construite avec l'appui du roi Léopold II à l'époque et depuis 10 ans nous sommes devenus la Grande Synagogue de l'Europe également. Donc on avait un triple jubilé en présence de Sa Majesté le Roi le 26 novembre dernier.
Philippe Markiewicz, le président du consistoire et notre guide, nous pénétrons dans la synagogue.
C'est vraiment le lieu symbolique du judaïsme belge depuis 1878, depuis sa construction. C'est un bâtiment qui est classé en Belgique, donc qui est protégé par les autorités de l'État. Et c'est un bâtiment dont la communauté juive est très fière. Vous avez au fond de la synagogue l'armoire où se trouvent les Torahs. Et puis, nous avons ici toute une série d'inscriptions sur les murs. Le principal précepte qui est indiqué ici, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Aime ton prochain comme toi-même, il n'est pas dit « aime ton prochain juif ». Aime ton prochain quel qu'il soit. Et ça, c'est la base d'un judaïsme universaliste, d'un judaïsme d'ouverture qui est respectueux de l'autre. Et ça, c'est fondamental dans notre société actuelle, plus que jamais.
Les terroristes des hommes perdus, ajoute Albert Guigui, grand rabbin de Bruxelles, à nos côtés dans ce lieu sacré.
Comment peut-on tuer quelqu'un au nom de Dieu alors que le texte biblique prône et rappelle constamment l'amour d'autrui, l'amour de l'étranger, l'amour de la veuve et de l'orphelin? Ce sont des gens qui ne sont pas des religieux, ce sont des terroristes qui instrumentalisent la religion et qui la falsifient.
Alors, comme au musée juif, le consistoire lui aussi prône un rapprochement entre les communautés. Philippe Markiewicz.
On avait organisé, quelques mois après l'attentat, à Molenbeek, justement, un match de football entre des représentants de la communauté juive et des représentants de la communauté musulmane. Tout ça pour bien montrer que finalement, nous souhaitions absolument que la société belge continue à évoluer positivement. Et l'une de mes missions essentielles est de veiller justement à ce que cette société belge poursuive sa vie dans un cadre tout à fait démocratique. Actuellement, ça fonctionne.
La communauté juive de Belgique, forte de 40 000 personnes, attend désormais que la justice passe, assure le grand rabbin Albert Guigui.
Ce rendez-vous judiciaire est important, d'abord pour les familles. Les familles qui ont perdu des êtres chers, ils ont besoin de voir le tueur de leur père, de leur mère, de leur frère, de leur sœur rendre des comptes. Je crois qu'ils ne pourront pas faire leur deuil tant que ce jugement n'a pas eu lieu. Il est important pour la communauté juive. En s'attaquant au musée juif, on s'est attaqué au passé, on s'est attaqué au présent et on s'est attaqué à l'avenir du peuple juif. Un musée, c'est la mémoire. C'est aussi un lien entre les hommes. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils rendent des comptes.
Pour commencer ce journal, un visage, celui de Mehdi Nemmouch, soupçonné d'avoir tué 3 personnes au musée juif de Belgique le 24 mai dernier.
Mehdi Nemmouch doit rendre des comptes. Pour l'accusation, il est l'auteur de l'attentat. Il avait été arrêté une semaine après les faits à Marseille, à la descente d'un bus en provenance de Bruxelles. Avec lui, un sac dans lequel ont été retrouvées les armes de l'attaque.
La justice belge demande son extradition.
Depuis, il fait valoir son droit au silence. Né en 1985 à Roubaix, dans le nord de la France, Mehdi Nemmouch a connu une enfance chaotique. La maltraitance est au cœur de sa vie, insiste son avocat belge, Henri Laquet.
Mehdi Nemmouch n'a jamais connu son père. Mehdi Nemmouch a été abandonné par sa mère à l'âge de 3 mois. Il a été placé à la DAS et ensuite il a été placé dans une famille d'accueil, les Vasseurs. Il est resté chez les Vasseurs pendant de nombreuses années, en résumé jusqu'à l'âge de 16 ans. Les Vasseurs sont une famille européenne, catholique, plutôt Algérie française. Et puis progressivement, il va reprendre contact avec sa famille maternelle qui est d'origine algérienne et qui est musulmane. Ce qui pourrait peut-être créer des questions d'identité pour l'enfant qui est entre une famille européenne catholique Algérie-Française et une famille qui est d'origine algérienne musulmane.
Et puis rapidement ensuite, dans l'adolescence...
Francis Villemain, l'avocat français de Mehdi Nemmouch.
Une succession de larcins, d'infractions commises, un vol avec violence par-ci, ou une tentative de vol par-là, une conduite sans permis, une accumulation assez classique, là, de condamnations, 7 environ, étalées sur son adolescence, qui le conduisent globalement à faire environ, si on cumule l'ensemble, 7 ans de prison, avant... les 4 années de prison qu'il effectue en détention provisoire en Belgique dans le cadre des faits que l'on sait, à savoir le musée juif de Bruxelles. Donc aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est quelqu'un qui a 33 ans, qui a passé 11 ans en prison, c'est-à-dire très exactement un tiers de sa vie en prison. Il n'évoque à aucun moment la question d'un éventuel basculement dans la radicalité ou dans le djihadisme. Il n'en parle pas.
Mehdi Nemmouch se serait radicalisé seul, en prison, habité, semble-t-il, par les récits guerriers des combattants de l'islam. En 2012, il rejoint le groupe État islamique en Syrie et devient Abu Omar, dit le cogneur. Son rôle, geôlier présumé des otages occidentaux, notamment des 4 journalistes français. Mathieu Suc, auteur du livre « Les espions de la terreur ».
On va retrouver sa trace notamment en tant que gardien à la prison d'Alep. C'est dans l'hôpital ophtalmologique de la ville. L'État islamique en a fait son quartier général. Et c'est là que l'organisation terroriste va stocker, si j'ose dire, pendant plusieurs mois, les otages occidentaux. Et Nemmouch va se révéler, d'après de nombreux témoignages, comme un des gardiens les plus sadiques, adepte de la torture, faisant croire qu'il venait d'exécuter un des otages à un autre et qu'il allait lui réserver le même sort, s'amusant à brandir des sabres et à le mettre à côté du cou d'une de ses victimes, montrant des gants en disant « Tiens, je les ai achetés spécialement pour toi » et enfilant les gants et après frappant l'otage. Il était extrêmement dur, à telle enseigne que d'autres djihadistes, notamment des Syriens, vont s'énerver contre lui, notamment un jour où il est en train de filmer les otages au petit coin en train de faire leurs besoins. Les djihadistes syriens vont trouver qu'il n'est pas nécessaire de rajouter l'humiliation et vont lui dire d'arrêter ça.
Le cogneur. Ainsi, les otages français surnommaient-ils Mehdi Nemmouch. Inculpé en France pour séquestration, il se profile pour lui un autre procès, mais Mehdi Nemmouch n'est pas qu'un barbare, assure son avocat français, Francis Villemain.
Quand je suis allé lui rendre visite la première fois à la centrale de Leuze en Hainaut, en Belgique, je ne savais pas à quoi m'attendre en le rencontrant. Il avait l'image médiatique qui est la sienne, résumée à quelques photos, le regard sombre, mal rasé, restant totalement mutique devant les juges. Je ne m'attendais pas à ce à quoi j'ai assisté, à savoir effectivement quelqu'un de très avenant, de très chaleureux. C'est choquant ce que je dis, mais c'est la réalité, alors je le dis. Quelqu'un d'intelligent, très structuré mentalement, avec un niveau de culture bien supérieur à la moyenne. Donc j'ai eu affaire à quelqu'un de très étonnant par rapport à son profil sur le papier. Quelqu'un qui parle un français excellent lorsqu'il parle. Alors devant les juges, il oppose son droit au silence, jusqu'à maintenant. Mais avec ses avocats, il parle énormément. Voilà son profil, étonnant.
Mathieu Suc.
Il y a tous ces exemples qui sont vraiment récurrents, qui s'accumulent, qui montrent une forme de sadisme, un goût pour la torture et des actes de barbarie. Et en même temps, c'est un magistrat qui m'en a parlé. Et au départ, j'étais un peu sceptique, mais je crois qu'il a raison. Nemouche n'est pas que ça. Il est aussi assez intelligent. Et par ailleurs, plusieurs fois, des otages ont rapporté des références culturelles, historiques, que faisait Nemouche. Faudrait pas le résumer à une caricature d'un barbare bête et méchant. Il y a un peu plus de contradictions dans le personnage, mais il est doué d'une réflexion.
Doué aussi d'une capacité d'analyse. Il se passionne par exemple pour ses dossiers judiciaires. Henri Laquet, son avocat.
Bien sûr, il s'intéresse à son dossier judiciaire, il l'examine très souvent. En prison. Il a droit à examiner son dossier, c'est ce qu'il fait.
Car Mehdi Nemouche ne semble pas souffrir de l'incarcération, souligne Francis Vuillemin, son avocat français.
Il se trouve sous un régime qui s'appelle RSPI, le régime de sécurité particulier individuel. Si on pouvait comparer avec les régimes d'incarcération très durs en France, on pourrait dire que c'est un super isolement doublé du statut de DPS. Détenu particulièrement surveillé. Un super isolement, c'est-à-dire qu'il ne croise personne sauf ses gardiens. Il est dans une cellule 23 heures sur 24, avec seulement une heure par jour de salle de sport. La salle de sport, c'est une pièce en réalité qui est grande comme sa cellule. Une heure de salle de sport ou une heure de préau. Donc on imagine ce qu'est la dureté que de vivre une incarcération dans ces conditions. Eh bien néanmoins, j'ai face à moi un homme pas du tout affaissé sur le plan physique et absolument pas affaissé sur le plan mental. Je vois quelqu'un doté d'un mental en acier, ayant le sourire, comme s'il était dans son univers, comme s'il y trouvait un cadre. Il ressemble à un homme libre quand vous le voyez en prison. Je n'explique pas ce phénomène.
Ce jeudi, à l'ouverture de l'audience, une interrogation. L'accusé Nemouche parlera-t-il ? Il le fera, assure son avocat, Henri Laquet.
Monsieur Nemouche a exercé son droit au silence, qui, je le rappelle, est un droit absolu. Cela étant dit, monsieur Nemouche l'a dit à plusieurs reprises, il s'expliquera devant la cour d'assises et il fournira des explications devant la cour d'assises.
Alors, Mehdi Nemouche fera-t-il de son procès une tribune ? Une éventualité qui n'inquiète pas les parties civiles. Guillaume Denoy de Saint-Marc, président de l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme.
Alors, ça fait partie du jeu, hein. On l'a connu avec beaucoup d'autres terroristes. Ça me fait penser à Carlos aussi. Le tribunal est aussi un moment où il y a une possibilité de faire une tribune. Mais ce qui compte, ce n'est pas la prise de parole, ce n'est pas ce qui va être dit. La rhétorique qui pourra être mise en place, je dirais, il sera là pour être entendu et jugé. Et ce qui est important, c'est le jugement ensuite et la condamnation.
Une condamnation éventuelle, mais l'accusation est solide, se félicite Guillaume Lys, l'avocat de l'AFVT.
En tout cas, je pense que le travail a été bien fait. Ce qui est sûr, c'est que les enquêteurs ont mis l'ensemble des moyens à disposition pour essayer de révéler la vérité dans cette affaire. Il y a eu un très gros travail, non seulement des enquêteurs belges, mais également aussi des enquêteurs français dans ce dossier. C'est un dossier qui est énorme parce que, justement, il y avait cette volonté des juges d'instruction de mettre toutes leurs chances de leur côté pour pouvoir savoir exactement et précisément ce qu'il s'était passé. À mon sens, on n'a pas à craindre une insuffisance de l'enquête. C'est un dossier solide, tout à fait.
Mehdi Nemouche encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Cette éventualité ne semble pas l'affecter. Francis Vuillemin.
Il n'est évidemment pas indifférent à son sort, mais on a vraiment le sentiment qu'il envisage son sort avec flegme et avec philosophie et avec un stoïcisme qui étonne.
Mehdi Nemouche et l'attentat du musée juif de Bruxelles, un grand reportage de Franck Alexandre, Pierre Chaffonjon à la réalisation.